en ligne avec nous, Frédéric Keck, bonjour. Est-ce que vous m'entendez, Frédéric Keck? Oui, vous êtes anthropologue, directeur de recherche au CNRS, directeur du laboratoire d'anthropologie sociale au Collège de France. Cela fait plus d'une décennie que vous étudiez les crises sanitaires dans le monde, particulièrement en Asie. Et votre dernier livre tombe à pic. Il a pour titre « Les sentinelles des pandémies, chasseurs de virus et observateurs d'oiseaux aux frontières de la Chine ». C'est à paraître dans quelques jours aux éditions Zone Sensible, un livre dans lequel vous analysez les réponses politiques aux différentes pandémies mondiales. D'ailleurs, pourquoi cet intérêt particulier pour les pandémies dans la zone asiatique ?
Alors, je suis entré au CNRS en 2005 avec un projet de recherche sur la sécurité alimentaire. Et Martin Hirsch, qui est actuellement en première ligne de front de la lutte contre le coronavirus, puisqu'il est directeur de l'APHP, était à l'époque directeur de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments, qui est aujourd'hui dans l'ANSES. Et il m'a proposé d'observer des comités d'experts qui discutaient de l'application du principe de précaution pour la grippe aviaire, qui arrivait donc en Europe depuis l'Asie. Et ce que j'ai observé, c'était des discussions, voire même des controverses entre des vétérinaires et des médecins, puisque d'un côté, on abattait massivement et on confinait des volailles, même avec leurs éleveurs, et puis de l'autre côté, on stockait des vaccins pour une grippe qui n'était pas encore arrivée sur le territoire européen. Et donc, ce que j'ai fait au bout de 2 ans, en 2007, c'est que je suis parti à Hong Kong, puisque c'était le point de départ de la mobilisation contre la grippe aviaire, et j'ai essayé de comprendre comment, depuis la rétrocession de la colonie britannique à la Chine, Hong Kong était devenue une sentinelle sanitaire contre les pandémies. Et ce que j'ai observé, c'est qu'effectivement, on parlait moins de confinement et de vaccins que de masques. On voyait des masques partout dans la rue. Et puis surtout, on mettait en place ces techniques dans les fermes et dans les marchés où on détecte à l'avance la transmission des pathogènes des animaux aux humains.
Des pandémies virales dont on va rappeler qu'elles sont cycliques. 1918, 1957, 1968, 2003, le SRAS, 2009, la grippe du H1N1. À chaque fois ou presque, Frédéric Keck, est-ce que ce sont les scientifiques asiatiques qui ont été à la pointe des recherches?
Alors en fait, au départ, ce sont des scientifiques australiens qui ont construit donc le département de microbiologie de l'Université de Hong Kong dans les années 70, au moment où ils se sont rendus compte que les virus de grippe pandémiques, qui émergent des animaux et qui remplacent les virus de grippe saisonniers, viennent des oiseaux. Et donc ils ont fait l'hypothèse que la grande densité des relations entre les oiseaux, les cochons et les humains dans le sud de la Chine explique le caractère cyclique des pandémies de grippe. Et donc ils ont voulu anticiper dès les années 70 ces virus qui se transmettent des animaux aux humains. Et puis une relève a été assurée en 97 avec la rétrocession de Hong Kong à la Chine, puisque ce sont des scientifiques chinois, hongkongais et même sri-lankais qui ont mis en place le contrôle du H5N1 et ensuite du SRAS.
Mais est-ce qu'on peut dire que les Occidentaux ont régulièrement méprisé les recherches asiatiques qui, il y a des années déjà, avaient décelé des mutations des virus?
Alors, en 2005, déjà au moment de la mobilisation de la France contre la grippe aviaire, une commission parlementaire a salué le travail des scientifiques de Hong Kong, qui étaient effectivement à la pointe sur les recherches sur la grippe aviaire. Et puis, c'est surtout après le SRAS, en fait, qu'il y a eu un fort investissement des autorités hongkongaises, chinoises, taïwanaises, dans la recherche sur les maladies infectieuses émergentes.
Mais est-ce que on peut considérer qu'avec cette longueur d'avance qu'a la Chine avec le SRAS, elle peut nous mener une guerre virale?
Alors bien sûr, il faut éviter les théories du complot sur lesquelles la Chine aurait fabriqué le virus dans ce laboratoire de Wuhan, qui coïncidait avec le lieu d'émergence du virus des chauves-souris. C'est sans doute parce qu'il y avait ce laboratoire qu'on a très vite pu identifier les origines animales de ce virus, sans doute transmis des chauves-souris aux pangolins sur un marché à Wuhan. Par contre, ce qui est sûr, c'est que la Chine a très vite compris à partir de 2003 que les deux siècles d'humiliation que les Occidentaux lui avaient imposés en disant « vous êtes incapables de contrôler vos épidémies » pouvaient être renversés, d'abord en équipant donc leurs laboratoires, mais aussi leurs hôpitaux, et puis surtout en prenant le contrôle, si l'on peut dire, de l'OMS.
Donc ça fait presque 20 ans en fait qu'ils se préparent à des pandémies.
Tout à fait, depuis la crise du SRAS, oui. À Hong Kong depuis 1997 et en Chine depuis 2003.
Et face à l'émergence d'un risque viral important, la réaction politique, et c'est l'objet de votre livre, elle est multiple, elle peut être quasi militaire. C'est par exemple la méthode singapourienne. Ça ressemble à quoi la réponse des autorités de Singapour face à un virus menaçant ?
Singapour, c'est intéressant parce que c'est un gouvernement autoritaire, éclairé par une élite confucéenne. Donc pour Pékin, depuis une vingtaine d'années, c'est le modèle de la gouvernance moderne, par contraste avec Hong Kong, qui est libéral, incontrôlable, avec une population qui manifeste en permanence. Donc effectivement, on a vu à Singapour des mesures beaucoup plus sévères qu'à Hong Kong, notamment avec des sanctions très très élevées, et puis même un bannissement des citoyens chinois qui ne respectent pas les mesures de confinement.
Avec donc pas mal de restrictions des libertés individuelles quand on parle de Hong Kong pour résoudre une crise sanitaire. Par exemple, une traçabilité des personnes contaminées, ça va jusque-là.
Oui, effectivement, Singapour, Hong Kong, Taïwan ont investi dans les technologies de l'information qui permettent de suivre en temps réel la diffusion de l'épidémie. Alors Singapour est allé sans doute le plus loin puisque les cartes numériques des cas sont non seulement produites par le gouvernement, mais elles sont disponibles pour tout individu qui peut donc savoir si ses voisins sont infectés. Je pense que ce serait très difficilement supportable en Europe.
Oui, justement, est-ce que les Occidentaux et les Français en particulier vous semblent prêts à accepter ce genre de restriction des libertés individuelles au profit d'une rigueur, on le disait, quasi dictatoriale ou en tout cas militaire ?
Quand on a vu les mesures de confinement imposées à Wuhan fin janvier, on s'est dit que ça ne pourrait jamais arriver chez nous, que c'était complètement archaïque, que la quarantaine appartenait à un autre temps. Et maintenant, nous y sommes. Nous sommes sidérés de nous retrouver dans cet état, confinés comme des poulets, j'ai envie de dire, puisque nous avons effectivement confiné nos volailles pour nous prémunir de la grippe aviaire depuis 15 ans. Mais on voit effectivement que ces mesures sont efficaces. En tout cas, c'est la position des autorités sanitaires internationales. Donc, il reste à se soumettre à ces mesures qu'en quelque sorte la Chine a imposées pour faire face à cette pandémie.
Reste à se soumettre, hein, c'est important ce que vous venez de dire, et ça ne va pas être facile forcément en Europe.
Frédéric Keck, vous parliez tout à l'heure des sentinelles, il y a aussi les simulations de catastrophes et des sortes de répétitions. Il y a le stockage des vaccins, des masques, des antiviraux. Ça, c'est un peu secret défense. La France n'a jamais eu de simulation de scénario catastrophe, l'Europe non plus d'ailleurs. Et aux États-Unis, il semble qu'on découvre le danger sanitaire maintenant.
Alors, les simulations de pandémie font effectivement partie presque du quotidien des hôpitaux à Hong Kong, en Chine, à Singapour, à Taïwan, parce que cela permet justement au personnel hospitalier de se préparer au retour d'un épisode aussi traumatique que la crise du SRAS, avec un personnel hospitalier qui risque d'attraper une maladie respiratoire atypique. Alors, ces scénarios donc catastrophes ont été construits et appliqués en France, en Europe, mais sans doute pas à une échelle comparable au continent chinois. C'est ce qui fait qu'effectivement, le personnel hospitalier est assez démuni. À cela s'ajoute effectivement le manque de stock de masques, alors que les stocks de masques étaient très importants en Chine, tout simplement d'une histoire de rapport des Chinois aux masques depuis le début du XXe siècle. Donc effectivement, on est sans doute assez mal préparé, alors qu'on croyait, d'après nos plans, qu'on l'était.
Hier, Olivier Véran, le ministre de la Santé, disait vouloir faire évoluer notre stratégie de dépistage en multipliant les tests quand il s'agira de lever le confinement. Est-ce que c'est une hypothèse pertinente pour l'anthropologue que vous êtes ? Je précise qu'il y a une seconde de décalage entre, à moins qu'on ait perdu la liaison avec Frédéric Keck. Est-ce que vous m'entendez,
Frédéric?
Non,
je vous entends.
Allez-y. Est-ce que le multiplier les tests, c'est pertinent quand il s'agira de lever le confinement?
Alors, les tests sont coûteux, donc je comprends qu'il y ait une hésitation au niveau du gouvernement. J'imagine aussi qu'on pourra détecter les anticorps après coup pour voir par sondage le pourcentage de la population qui aurait été exposée au virus. Alors, la technique de Singapour et de la Corée du Sud notamment, c'est effectivement de tester le plus grand nombre de personnes pour pouvoir, notamment chez les jeunes qui sont asymptomatiques, les isoler et éviter leur contact avec les personnes âgées qui sont les plus vulnérables.
Mais là, on a l'impression que c'est l'économie, au fond, qui prévaut, ici, en disant que ça sera trop cher, donc on le fera pas.
Oui, c'est-à-dire qu'il y a effectivement, en situation de ressources rares, comme on dit dans les catastrophes humanitaires, dans les situations d'urgence, il faut décider quelle est la meilleure allocation des ressources. Donc, est-ce que c'est les masques, est-ce que c'est les tests Voilà, je suis heureux de ne pas être décisionnaire aujourd'hui.
Allez, on va passer au standard de France Inter, la question, les questions des auditeurs avec Paul qui est en ligne. Bonjour Paul.
Oui, bonjour, je vous appelle de La Réunion. Une question à votre invité. Dans le cadre de vos recherches au CNRS, est-ce que vous pouvez donner une explication, l'explication suivante, pourquoi la pandémie a toujours, essentiellement, que ce soit le SRAS ou le Covid-19, une origine asiatique, chinoise, donc un mouvement qui part de la Chine ou de l'Asie vers l'Europe, comme par exemple c'est le cas, ça a été le cas au 19e avec le choléra depuis l'Inde. Est-ce que vous avez une explication à fournir à ce sujet.
Pourquoi est-ce que les virus viennent de l'Asie vers l'Europe et non pas l'inverse? C'est un peu ça votre question là.
Exactement. Et puis juste une dernière remarque. Est-ce que je peux me permettre de faire
nous.
Une remarque?
Allez-y.
La remarque est la suivante. C'est qu'à La Réunion, oui. Depuis le 10 mars, environ 15 000 voyageurs sont arrivés à La Réunion. Il y a eu une distanciation sociale entre les citoyens, mais il faut quand même remarquer que la distanciation entre la métropole et La Réunion n'a pas été suffisamment prise à temps, ce qui fait qu'actuellement, de 2 cas, on est passé à 45 cas.
Alors, on va prendre vos remarques. Très bien pour la remarque. Pour la question, pourquoi les virus de l'Asie vers l'Europe et pas l'inverse?
Alors, l'hypothèse des virologues depuis les années 70, c'est qu'il y a une grande densité de population en Chine qui s'ajoute à une multiplication des animaux élevés à des fins de consommation humaine, c'est-à-dire cochons et volailles qui ont d'ailleurs été domestiqués il y a très longtemps en Chine. Et donc ça, c'est le réservoir pour les virus de grippe. L'autre hypothèse pour le SRAS et le coronavirus 19, c'est la déforestation qui rapproche les chauves-souris du centre de la Chine vers les grandes villes qui sont des lieux de contact pour les populations migrantes, donc les travailleurs migrants, qui ensuite, notamment à l'occasion du Nouvel An, se dispersent dans l'ensemble du territoire et aussi à travers les expatriés au reste du monde.
Vos questions ce matin à l'anthropologue Frédéric Keck, vous nous appelez au 01 45 24 7000. Raymond est en ligne. Bonjour Raymond.
Oui, bonjour.
Quelle est votre question?
Alors, donc ma question, c'est pour se décaler un peu de l'approche technique, est-ce que l'anthropologie peut aider à comprendre les comportements individuels et collectifs que l'on peut juger contraires aux logiques de l'épidémiologie et de la santé publique? C'est des questions qui sont étudiées depuis une quarantaine d'années en Afrique, en Asie, par rapport au fait que les populations locales ne respectent pas toujours les discours ou les préconisations de la santé publique.
Alors, Frédéric
Keck, la question se pose en France aujourd'hui. Par rapport au comportement, on dit que les personnes sont inconscientes, sont dans le déni. Est-ce que l'anthropologie peut décortiquer ces comportements-là en France aujourd'hui?
Eh bien, la réponse du spécialiste, Frédéric Keck.
Oui, l'anthropologie sociale peut expliquer quelles sont des relations sociales normales et des relations sociales pathologiques, c'est-à-dire les moments où on peut échanger des mots, des marchandises, et ça nous fait du bien, et des moments où on échange au contraire des virus ou des fausses informations qui nous font du mal. Alors, on peut aussi, quand on est véritablement expert sur Ebola, par exemple, en Afrique, ou sur la grippe aviaire en Asie, expliquer pourquoi certains comportements présentent des risques, comme par exemple des techniques d'enterrement en Afrique, ou des modes de relation aux animaux en Asie, ou par exemple, on achète du poulet vivant sur les marchés parce qu'on croit que la fraîcheur est un signe de vitalité et de qualité dans la médecine. Alors, on peut penser à ces deux niveaux, un niveau très pratique, très appliqué, et un niveau un peu plus fondamental sur qu'est-ce qui fait une relation sociale normale en temps de pandémie, par exemple.
Frédéric est en ligne. Frédéric, vous nous appelez de Pau. Quelle est votre question ?
Tout à fait. Bonjour à tous. Monsieur Keck, bonjour. Je voulais vous demander, est-ce que la meilleure prévention contre les pandémies ne serait pas, entre autres, de respecter les équilibres naturels ? On peut comprendre que si l'on décime, par exemple, les oiseaux qui sont les hôtes de certains virus, eh bien, ces virus vont chercher d'autres cibles, par exemple, les humains.
Alors, respecter les équilibres naturels, Frédéric Keck.
Donc ça, c'est sur les conséquences écologiques, on va dire, d'une manière plus générale.
Oui, effectivement, cette pandémie et la période de ralentissement et de réflexion qu'elle nous impose permet d'anticiper les prochaines pandémies et leurs causes écologiques. Bon, alors on ne va pas bien sûr tuer les chauves-souris, au contraire, il faut les protéger. Elles rendent des services écosystémiques en détruisant des nuisibles, mais il faut veiller à la déforestation qui les rapproche des centres-villes. Et puis effectivement, pour les élevages de volailles, en fait, c'est l'augmentation de l'élevage industriel qui favorise la propagation du virus. Les petits élevages, au contraire, avec une grande diversité génétique, résistent davantage à ces virus qui se transmettent aux humains.
Sur le plan politique, Emmanuel Macron l'a reconnu d'ailleurs, hein, le moment venu a-t-il dit, il faudra tirer les conséquences de cette crise et de cette pandémie. Que devrons-nous changer en premier lieu, Frédéric Keck ?
Il faudra sans doute investir davantage dans les hôpitaux publics, dans la recherche scientifique pour justement penser les causes écologiques et sociales des pandémies.
Pour la recherche, et puis, le chef de l'État vient de faire un chèque de 5 milliards, donc il a déjà anticipé les prochaines mesures.
Voilà, il faudra que ça bénéficie à toute la recherche scientifique, pas seulement effectivement à la recherche de vaccins et aux industries pharmaceutiques. Et puis, il faut aussi réfléchir tous ensemble à comment mieux vivre dans le monde des pandémies où les chauves-souris et les oiseaux nous envoient des messages que notre mode de consommation et de circulation n'est pas le bon.
Sans vouloir gâcher le dimanche de tout un chacun, mais est-ce qu'il pourrait y avoir des désastres à venir encore pires ? Je pense à la dengue.
Effectivement, les virus de dengue, donc portés par les moustiques, se rapprochent de l'Europe à cause du réchauffement climatique. Le taux de létalité est assez comparable au coronavirus. C'est à peu près 1% des personnes infectées, avec 20% qui présentent des complications. Mais c'est une maladie qui passe au cerveau, donc elle est très douloureuse. Et même quand on est infecté, elle présente des séquelles pendant assez longtemps. Donc on peut s'attendre effectivement d'ici 4 ou 5 ans à ce que la dengue arrive sur le territoire européen. Et même si on n'aura pas de mesures de confinement du type de celle du coronavirus, ce sera aussi une urgence sanitaire très importante.
Allez, une dernière question avec une question courte et une réponse courte aussi, pardon de vous presser. Gilles est en ligne. Bonjour Gilles.
Oui, bonjour à toute l'équipe. Donc ma question, est-ce que dans les années qui viennent, on n'aura pas l'apparition de virus de plus en plus nombreux et des virus qu'on ne pourra pas combattre ?
Monsieur Keck, Frédéric Keck.
Alors, oui, depuis les années 70, tous les 4 ou 5 ans, on a un virus qui émerge. Hein, ça a été Ebola, Sida, vache folle, grippe aviaire. On a eu le MERS sur les dromadaires en Arabie Saoudite. On a cru que ça passerait en Europe en 2014. Et voilà, là, c'est le coronavirus. Donc, c'est à peu près tous les 4 ou 5 ans. Donc, ça va revenir. Il faut s'y préparer.
Eh bien, merci d'être venu le dire ce matin. Frédéric Keck, anthropologue. Vous êtes directeur de recherche au CNRS, directeur du laboratoire d'anthropologie sociale au Collège de France, et je rappelle votre livre apparaître le mois prochain, un livre qui tombe à pic, Les sentinelles des pandémies, chasseurs de virus et observateurs d'oiseaux aux frontières de la Chine.
Quand vous arrivez à garder le moral quand même.
Le livre.
Oui, tout à fait. Je continue à lire et à travailler.
Votre livre sortira le mois prochain aux éditions Zone Sensible. Merci beaucoup de votre éclairage de ce matin sur Inter et bonne journée.